Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chimères, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Alors ce matin, nous allons partager un sujet sur la prière en langue. Et je vais vous montrer un certain nombre de choses par rapport à cette prière. Parce que je pense que souvent, c'est quelque chose qui est mal compris parmi le corps de Christ. Et quelles que soient les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver, à partir du moment où nous ne sommes pas nous-mêmes en faute par rapport à ces situations, c'est-à-dire que nous ne sommes pas mis en défaut, Dieu vous a donné un don spécial que nous allons étudier ce matin, justement pour apprendre à avoir des solutions, à trouver des solutions divines dans les différentes situations dans lesquelles nous nous trouvons. On va commencer par un texte que vous connaissez tous, mais qu'on va reprendre, qui est dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Et c'est Paul qui nous livre un secret, je dirais, par rapport à la prière. Et il dit, Éphésiens 6, 18, priez en tout temps, littéralement, c'est au temps convenable, à la bonne saison.
Il
dit après par l'esprit en français,
mais
c'est dans l'esprit, dans l'esprit, en étant dans l'esprit, parce qu'on va parler d'être dans l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Alors on va utiliser un certain nombre de termes bibliques ce matin qui vont vous montrer le choix, chemin par lequel vous pouvez être dans l'esprit et pouvoir pratiquer ce verset. Parce que vous ne faites pas d'illusions. Vous pouvez prier par rapport à différentes situations avec votre intelligence. Et souvent, avec notre intelligence, nous ne voyons pas la
vérité.
Et Dieu nous montre, d'abord dans ce passage, qu'il y a différentes sortes de prières. Et il parle d'être dans l'esprit. Il parle d'être dans l'esprit. Nous allons étudier ces différentes expressions. Et quand il parle donc de prier en tout temps, c'est-à-dire à la bonne saison, en fait, Paul dit la chose suivante. Par rapport à différentes situations, vous pouvez utiliser différentes sortes de prières, mais que la sorte de prière que vous utilisez correspond exactement à la bonne situation, au bon moment. Donc, il nous exhorte à utiliser, en étant dirigé par le Saint-Esprit, le bon type de prière par rapport à la bonne situation. Vous savez, il y a certains dons que Dieu nous fait et qui parfois nous surprennent. Et je pense une chose. Je pense que le parler en langue, c'est le don qui pose le plus de questions aux chrétiens. Souvent, quand on prie pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit, un des obstacles qu'ils ont, c'est de dire, comment est-ce que je peux parler un langage que je ne comprends pas, moi? Comment est-ce que je peux parler un langage que je ne comprends pas? Mais Olivier, pourquoi Dieu veut ça? T'es sûr que vraiment Dieu veut ça? C'est souvent des questions qu'on a. La plupart du temps, je suis sûr, si on faisait des statistiques parmi vous, si on vous disait, la première fois que tu as entendu parler en langue, qu'est-ce que tu as pensé? Moi, je me souviens, les gens gens qui nous avaient amenés au Seigneur. Ils étaient très fervents pour le Seigneur. Et alors, bon, des fois, ils nous invitaient chez eux. Et alors, ils commençaient à prier. Puis d'un seul coup, ils se mettaient à parler une langue bizarre. Et on se disait, mais il parle polonais, il parle russe, il parle quoi, ce monsieur? C'était bizarre, ça ressemblait un peu à un langage comme ça, vous savez. Et souvent, les bébés spirituels résonnent comme ça. Ils disent, mais pourquoi ce langage en langue? Ce matin, vous allez voir pourquoi ce langage en langue. Et je vous garantis que si vous écoutez cet enseignement, ça va vraiment vous bénir. Malheureusement, l'ignorance dans le corps de Christ fait qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent une bénédiction et comme ils ne savent pas utiliser correctement cette bénédiction, eh bien le diable vient et leur vole. Et au bout d'un moment, par exemple pour le parler en langue, il y a des gens qui vous diront, moi je parlais en langue, oui, ça m'est arrivé une ou deux fois, et puis finalement, comme je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Quoi faire avec ça, je sais pas. Bon, maintenant, je sais pas, je parle plus en langue. Vous savez, le diable est un voleur.
Hein.
La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, versets 16 et 17, et ouvrez bien vos oreilles par rapport à cet enseignement. Parce qu'on va aborder des choses importantes.
Hein.
On va commencer par des bases. Et un bon nombre d'entre vous, vous connaissez ces bases. Et après, on va commencer à aller beaucoup plus profondément. La Bible nous dit ici, ne vous y trompez pas mes frères bien-aimés, tout don excellent, tout cadeau parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation.
Gutanga kose kwiza n'ingabire yose itunganye rwose biva mu ijuru vyururuka biva kuri se w'imico adashobora guhinduka cyangwa kugira igitutu gitewe no guhindagurika.
Vous savez, si Dieu nous fait des dons,
murazi nibi imana iduhingabire,
c'est pas pour que ce soit inutile.
Ntabwo ari kugira ngo bibe ngaha tacho bimaze.
Vous savez, des fois on peut avoir des choses,
murazi rimwe na rimwe hari umuntu agira
dans notre maison,
mu nzu yacu,
par exemple une machine,
ukagira igikoresho
cyose, on ne sait parfois pas à quoi ça peut servir,
ukabutazi n'icyo gifasha,
et elle est là juste en stockage, alors qu'elle pourrait nous rapporter des sous, elle pourrait nous profiter, nous pourrions en tirer un profit. Et parfois les chrétiens sont comme ça, Dieu leur fait des dons et finalement, comme ils ne savent pas s'en servir, ils ne savent pas comment s'en servir, et bien souvent ils laissent de côté, et puis petit à petit le don commence à diminuer et à disparaître de leur vie. Mais on va voir qu'il y a vraiment une utilité. On va voir que c'est une porte ouverte au don spirituel. On va voir que la prière en langue va nous permettre d'entrer dans l'esprit et vous permettra aussi d'entrer ce qu'on appelle dans la prière de supplication. On va expliquer ce que c'est. Et aussi parfois selon l'esprit dans la prière d'intercession. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent entrer dans des choses spirituelles sans passer par la porte. Vous ne pouvez pas entrer dans ce bâtiment sans passer par la porte. Il y a des étapes, dans la vie spirituelle. Si vous ne passez pas par ces étapes, vous ne pourrez jamais progresser et vous resterez donc toujours au même stade. C'est pour ça que c'est important. La Bible nous parle dans 1 Corinthiens 14 et on va commenter un certain nombre de choses par rapport à 1 Corinthiens 14 aujourd'hui. 1 Corinthiens 14 verset 4, Paul dit la chose suivante. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Littéralement, le grec dit la chose suivante. Il construit sa maison. Il construit sa maison spirituelle. Quand tu parles en langue, tu te construis toi-même. Je dirais, ça fait partie un peu des dons égoïste que Dieu nous fait. Vous savez, des fois vous recevez des choses de Dieu. Par exemple, si vous recevez une parole, cette parole n'est pas pour vous. Vous allez la donner à quelqu'un. Bon, vous recevez un don de guérison. Vous priez pour la personne. C'est la personne qui guérit, c'est pas vous. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne pour que les autres soient bénis. Là, le parler en langue, ça fait partie des dons que Dieu nous donne pour que nous, parce que nous en avons besoin, nous avons besoin de recevoir de la part de Dieu. Vous ne pourrez jamais bénir les autres si vous-même vous n'êtes pas béni
d'abord.
Ça, c'est un principe. C'est pour ça que les chrétiens qui sont faibles spirituellement, ils n'apportent pas la bonne odeur de Christ autour d'eux.
Et
si un chrétien est triste, qu'il est dans une extrême pauvreté, qu'il manque de paix, qu'il s'inquiète pour rien, qu'il n'a que des problèmes, et qu'il prie, qu'il ne voit pas d'intervention divine, il
ne
peut pas être une bénédiction pour lui. Parce que rien que déjà de voir un chrétien comme ça, ça ne bénit pas. Et d'autre part, cette personne qui est dans une telle condition de faiblesse spirituelle, et c'est lui qui a besoin d'aide, mais il ne peut pas être une bénédiction pour les autres. Par contre, quand tu es fort, quand vraiment tu es fort, quand vraiment tu es rempli de l'esprit, que tu es rempli de la parole, alors tu peux bénir les autres. Et ça, c'est un principe biblique. La Bible est claire. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Le parler en langue fait partie de cette bénédiction qui vraiment est pour nous, pour toi.
Yahweh.
Pour toi,
Yahweh.
Pour que tu puisses apprendre
kwiga,
à entrer dans certaines choses, certaines dimensions du Saint-Esprit, et que après, marchant dans les choses de l'Esprit, petit à petit, avançant dans les choses de l'Esprit, tu puisses après toi être sensible pour recevoir des choses et être une bénédiction pour les autres.
Amen.
Et ça, c'est important de comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est les étapes. Donc, c'est un don pour toi. Alors, est-ce que vous pensez que Dieu a des petits préférés dans son royaume? Est-ce que Dieu va dire, ah non, non, une partie de mon peuple, je veux qu'il soit béni? Vous savez, j'ai une question d'école biblique, là, dans les tests de l'école biblique tous les ans. Et qui dit, est-ce que Dieu ne veut bénir que certains de ses enfants, vrai ou faux? Et vous savez, il y a beaucoup d'étudiants qui répondent vrai. Comme si Dieu faisait des préférences.
Hein.
Que Dieu veut bénir certains. Et puis d'autres, non, ça ne va pas. Moi, tu ne me plais pas. Non. Ta tête ne me plaît pas. Ça va.
Non,
chacun qui est ici, sachez que vous êtes au bénéfice du même amour de Dieu. Dieu a les mêmes dons concernant notre vie personnelle pour chacun d'entre nous. Il a strictement les mêmes dons. Vous savez, Dieu a prévu quelque chose qui n'existait pas dans les autres alliances. Et je vous surprendrai même que Jésus même ne pratiquait pas. Le parler en langue. La prière en langue. C'est vraiment quelque chose qui est de la nouvelle alliance.
Il
y a un passage qui souvent laisse rêveur les chrétiens, leur fait poser beaucoup de questions, c'est le passage de Jean 14, verset 12. Jésus fait une déclaration qui va s'adresser à son corps, à la future église. Et souvent, quand on lit ce genre de passage, on préfère lire un peu plus vite, parce qu'on se dit franchement là, je sais pas. Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera au futur, lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père.
Nukuri nukuri ndababwire unyizera ibikorwa je nkora nawe azobikora kandi azokora nibibiruta kuko je ngiye kwa data.
Ça vous a jamais surpris un tel passage?
Nana nimwe birabatangaza igice nk'iki.
Hein, quand on lit tel passage on dit.
Igisome igice nk'iki uravuga.
Bon, faire les œuvres de Jésus.
Gukora ibikorwa vya Yesu.
On peut prêcher, on peut enseigner. Sora
kuvuga ubutumwa dushobora
kwigisha. Chasser des démons.
Sora gusenda abadayimoni.
Guérir des malades.
Sora gusengera abagwaye.
Ça c'est clair.
Ivyo nivyo.
Certains ont même ressuscité des morts.
Bamwe bamwe baranakoresheje urazura bapfuye.
Mais plus grande.
Ariko ibikomeye.
Ah, il y a eu beaucoup de commentaires sur ce verset. Oui, vous savez, il y a des choses que Jésus ne pouvait pas faire. Je dis bien ne pouvait pas faire. Parce qu'il n'avait pas encore fait la nouvelle alliance. Vous savez que Jésus, dans les évangiles, il ne pouvait pas faire naître quelqu'un de nouveau. Personne ne pouvait naître de nouveau dans les évangiles. Ses disciples ont dû attendre de pouvoir naître de nouveau après sa résurrection. Tant que Jésus n'avait pas versé son sang, qu'il ne s'était pas donné en sacrifice, je vais vous dire une chose, Jésus ne pouvait pas faire naître. C'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il ne pouvait pas. Parce que Jésus a obtenu le droit légal de faire naître de nouveau des gens, tous ceux qui croiraient en lui, après sa résurrection. Donc avant sa résurrection, Jésus ne pouvait pas faire naître de nouveau. Tous les gens qui croyaient en lui, bon, ils croyaient qu'il était le Messie. Ils pouvaient demander pardon verbalement pour leurs péchés. Et là, Jésus, en tant que Dieu le Fils, sur la terre incarnée, pardonnait le péché verbalement, et à ce moment-là les gens étaient verbalement pardonnés. Mais Jésus ne pouvait pas venir habiter dans leur cœur. C'était impossible. Ça s'est fait seulement après la résurrection, après que Jésus se soit donné en sacrifice pour l'humanité. Amen. Et le parler en langue, vous verrez bien, ça n'existe nulle part dans toutes les anciennes alliances de l'Ancien Testament, dans les évangiles. C'est la même chose. Même Jésus ne parlait pas en langue. Mais Jésus a voulu donner un signe. Marc chapitre 16. La prière en langue fait partie d'une sorte de prière que personne n'a pu pratiquer avant la Pentecôte. Jésus était retourné au ciel et après il a donné le Saint-Esprit pour qu'il puisse se répandre sur les disciples. Et quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler de nouvelles langues. Donc dans Marc chapitre 16, il est dit au verset 17, voici les signes, les miracles, les choses surnaturelles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Nous savons que ici, Jésus parle au futur corps de Christ. À toute l'église de Dieu. L'église de Dieu, je vous le rappelle,
ce
n'est pas l'église El Shaddai seulement, ou toutes les églises qu'on peut voir à droite et à gauche, dans le monde entier. Mais la vraie église de Dieu, je vous le rappelle, c'est l'ensemble des chrétiens, donc qui sont nés de nouveau et qui sont dans le monde entier. Dans le monde entier. Quelle que soit la dénomination, l'église où ils vont prier. Si quelqu'un est passé par une expérience personnelle avec Jésus-Christ, il est né de nouveau et il fait partie de l'église universelle en général. L'église du monde entier. Donc Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu es croyant, tu peux être rempli du Saint-Esprit et avoir ce langage céleste qui sortira de ton cœur, de ton esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ça s'appelle la prière en langue. La prière en langue. Nous savons, c'est pas le but de mon enseignement aujourd'hui, que la prière en langue est relatée à l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit pour la toute première fois, le Saint-Esprit met dans son esprit, l'esprit de la personne, un langage surnaturel que cette personne ne comprend pas. C'est ce qu'on appelle le parler en langue. Maintenant, vous vous rappelez que le texte que nous avons vu au début, Paul dit clairement, priez autant convenable, c'est-à-dire en utilisant la bonne sorte de prière, dans l'esprit. Et nous allons maintenant étudier comment la prière en langue est une prière qui nous permet d'entrer dans l'esprit. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont vraiment, ils avancent pas dans leur vie spirituelle parce qu'ils ne comprennent pas des choses basiques. Des choses basiques avec leur relation avec Dieu. Vous savez, il y a des principes auxquels on ne peut pas déroger, c'est-à-dire on ne peut pas passer à côté. Il y a des principes spirituels qui sont établis par Dieu dans soit nous en recevons l'enseignement, la connaissance, et à ce moment-là nous pratiquons ces choses. Et quand nous pratiquons ces choses, alors nous voyons les bénéfices du royaume de Dieu dans notre vie, nous voyons Dieu agir dans notre vie, et nous entrons dans des dimensions plus importantes. Nous marchons à ce moment-là de gloire en gloire, de victoire en victoire, parce que nous apprenons à utiliser les principes de la parole de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, quand nous sommes soit ignorants, ou soit que nous sommes rebelles à ce que Dieu veut faire, à ce moment-là, nous restons bloqués. Nous restons à un certain niveau spirituel. Et on entend parler de différentes situations dans ce pays. Mais je vais vous dire une chose. Si vous voulez prier correctement, que ce soit pour les autorités de cette nation, que ce soit pour les différentes situations de cette nation, ce n'est pas avec la tête, que vous serez efficace. Mais c'est dans l'esprit, en étant dirigé dans l'esprit, à faire le bon type de prière par rapport à la bonne situation. Et c'est ça qui amènera un impact. Quand vous avez à cœur telle ou telle situation, c'est pas autrement. Parce que toutes les églises prient pour le pays. D'accord. Mais nous allons voir que d'abord il faut être dans l'esprit pour pouvoir prier efficacement, la façon qui va toucher le ciel et qui va amener un changement de situation. Sinon, nous perdons notre temps. Et nous devons comprendre qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, qui sont des choses qui sont autour de nous et qui sont des choses spirituelles. Comment est-ce que je peux, par mon intellect, par mon âme, amener un changement dans des choses spirituelles? Non, par contre, si je suis dans l'esprit, et je vais expliquer ce que c'est, alors Dieu peut me diriger d'une certaine façon pour m'amener à prier d'une certaine façon et voir des changements de situation. Et c'est là où ça fait toute la différence. Dans 1 Corinthiens 14:14, Paul va nous révéler un certain nombre de choses. Je vous ai dit, on va étudier 1 Corinthiens 14, certains versets, parce que ce sont des versets qui sont importants. Paul dira, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alors il y a beaucoup de chrétiens qui ont vraiment un problème avec ça. Vraiment se dire, je prie quelque chose, des mots que je ne comprends pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, non là franchement, je ne peux pas accepter ça. Je suis désolé, je ne peux pas comprendre ça. Donc, prier quelque chose que je ne comprends pas, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter dans ma vie spirituelle. Vous savez, il y a de la puissance dans l'obéissance. Moi, il y a beaucoup de choses que je fais. Des fois, j'exerce le ministère. Et d'un seul coup, je sens vraiment une direction dans un sens. J'y vais et je discute pas. Pourquoi Seigneur ceci, pourquoi Seigneur cela, à force de poser les pourquoi, finalement tu restes sur ta chaise et tu ne bouges plus. Si tu veux comprendre pourquoi Dieu te dit de faire ça, je veux dire, tu vas rester l'éternité en train de poser des questions. Non, tu obéis. L'important c'est d'obéir, dire Seigneur, moi je ne comprends pas certaines choses, mais ta parole le dit, donc je veux obéir. Rappelez-vous ce que dit Esaïe: si nous avons un cœur obéissant, nous mangerons les meilleures productions du pays. Ça veut dire que si vous voulez voir votre Canaan spirituel se manifester pleinement, eh bien il va falloir avoir un cœur obéissant, et on ne discute pas avec Dieu. Quand le peuple de Dieu commence à discuter avec Dieu, là ça commence à être mauvais. D'un autre côté, nous avons des gens qui veulent tout forcer par leur intelligence. Ils cherchent à forcer les portes du ciel, entre guillemets, par leur intelligence, en essayant de prier que par leur intelligence. Et nous avons une intelligence. Dieu a mis quelque chose sur nos épaules qui s'appelle une tête. Dieu n'a pas dit de mettre notre tête à la poubelle. Non, parce que ça donne des gens bizarres. Vous savez. Il y a des chrétiens qui sont complètement bizarres à cause de cela. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils pensent, ils disent non, je suis spirituel, je suis très spirituel.
Non,
il y a des choses que tu résous avec ton intelligence. Et Dieu n'est pas contre ça. Parce que c'est lui qui t'a donné cette intelligence. Mais il y a des choses que tu ne résoudras jamais avec ton intelligence. Et quand tu commences à prier, ça veut dire que tu veux voir une intervention du ciel dans une de tes situations. Et là, tu as plutôt intérêt à être branché correctement. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de chrétiens qui passent leur temps à prier. Prier, sans vouloir d'abord être dans l'esprit, avoir une direction du Saint-Esprit. La foi a son rôle, mais rien ne peut dépasser la direction du Saint-Esprit par rapport à comment nous prions dans une situation. Donc Paul dit ici, quand je prie en langue, je prie, c'est mon esprit qui est en prière. Mon intelligence demeure stérile. Mon intelligence demeure stérile. Et quand je prie en langue, parce que j'ai été rempli du Saint-Esprit la première fois, et je dis, nous avons encore eu des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit à l'église. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter les conseillers qui étaient là, parce qu'ils ont prié efficacement et ils ont amené les gens au baptême. Quand nous prions en langue, notre esprit est en prière. Et c'est là où nous nous mettons dans l'esprit. Être dans l'esprit. Rappelez-vous d'Ephésiens 6. Paul nous dit clairement cela. De prier dans l'esprit. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est-à-dire en ayant une direction dans notre cœur. Non pas en analysant la situation avec notre intellect. Parce que si tu analyses la situation avec ton intellect, tu auras du mal à prier pour toucher le ciel. Rappelez-vous d'une chose, Dieu ne veut pas que nous prions pour prier. Je vous rappelle que prier pour prier vous fera du mal. Prier doit amener quelque chose. Une situation a changé. Un temps particulier avec Dieu. Et je vous rappelle que Dieu n'a rien à faire de la quantité. Ce qui intéresse Dieu, c'est la qualité. La qualité de ta relation avec Dieu. Que quand tu élèves ta voix, c'est pas pour aller raconter du baratin à Dieu, tes histoires, tes problèmes, tes trucs et tes machins, tout ce que tu penses, tout ce que les autres t'ont fait, toutes les histoires de droite et de gauche, c'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu te mettes être dans l'Esprit, que tu marches dans sa parole et que tu touches le ciel et que ta situation soit changée. Et pour te mettre dans l'Esprit, eh bien, il va falloir que tu passes par des étapes. Vous savez, Jésus dit dans Matthieu 6:6 une parole qui, bon, apparemment paraît très naturelle, mais derrière tout ça, il y avait une puissante vérité. Bon, Jésus dénonçait un peu les gens, Matthieu 6, verset 6. Vous savez, il dénonçait les gens qui étaient là et qui se mettaient, c'était les pharisiens, ils se mettaient sur le bord de la route.
Et
ils faisaient tout un tollé à côté d'eux pour que la foule arrive.
Et
ils avaient des recruteurs. Hein. Des recruteurs qui faisaient amener les gens autour d'eux. Et il faisait donc des grandes prières, des voix très religieuses. Et Jésus dénonçait vraiment ça. Dénonçait toute cette hypocrisie. De gens qui étaient là, qui se montraient pour prier. Voilà, tout à fait. Et au verset 6, Jésus dit, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Vous savez, Jésus dit ça, et souvent ça a été interprété par les chrétiens de la façon suivante. Ah, pour prier alors, il faut que je m'enferme dans ma chambre et que personne ne me dérange, et là mon Père Céleste va me le rendre. Non, c'est pas tout à fait ça. L'idée, c'est pas tout à fait ça. L'idée, c'est que tu apprennes, où que tu sois, à te fermer au monde naturel
qui t'entoure.
Parce que si tu vas dans l'Esprit, il va falloir que le monde naturel qui t'entoure, tu te fermes à cela pour écouter celui qui veut te parler, celui qui veut te diriger. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Et ça, c'est ce qu'on appelle une gymnastique de notre esprit. Vous savez, notre esprit peut être éduqué, il peut grandir. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes des bébés spirituels. Là, Dieu nous a sauvés, mais nous sommes des bébés spirituels. Le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit, mais il n'est pas dans notre âme, dans notre personnalité. Et en fait, quand nous naissons de nouveau, nous naissons dans un
monde
nouveau. Nous sommes des petits bébés.
Hein?
Je vous ai parlé de ça il y a quelques semaines. Nous avons besoin de quoi? De lait spirituel. Pour grandir, nous avons vu quel type de nourriture c'était. Nous avons besoin de comprendre d'abord que Dieu habite en nous et que notre esprit doit grandir, doit prendre de la place. Et petit à petit, dans la vie spirituelle, ce sont des choses qui doivent se manifester. Il y a des chrétiens, ils sont 99,9999999% du temps dans la chair. Et de temps en temps, d'un seul coup, la présence de Dieu vient sur eux. Et là, vraiment, ils sont bénis et ils prient vraiment efficacement. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ça, c'est bien le jour où tu reçois le Seigneur. Hein. Mais si au bout de 10 ans de vie spirituelle, t'en es encore là,
bah,
ça veut dire que t'as un gros problème. Ça veut dire que tu n'as pas grandi. Ça veut dire que ta nature spirituelle ne se manifeste pas. Non pas parce que c'est pas Dieu qui veut pas que cette nature spirituelle se manifeste, mais c'est que toi, tu ne sais pas peut-être comment faire. Quand tu commences à prier en langue, tu parles à Dieu directement et tu actives ton esprit. Tu actives ton esprit. Rappelez-vous, celui qui parle en langue, qui prie en langue, son esprit est en prière, mais son intelligence, son âme est stérile. Elle ne porte pas de fruits. Ce n'est pas ton âme qui travaille. C'est ton cœur qui est né de nouveau.
Paul
dira dans 1
Corinthiens 14,
au début du chapitre, les choses suivantes qui sont importantes. J'aime beaucoup ce passage parce que vraiment il est entrelacé main dans la main avec les dons spirituels. On va en parler. Alors au verset 2, il dit la chose suivante. Il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Vous savez, parler à Dieu, ça veut dire quoi?
Ben,
ça veut dire prier,
gusenga.
Tout simplement. Disons que Paul a voulu expliquer un peu plus sur le parler en langue,
parce
que certainement les Corinthiens avaient autant de questions que vous. Et c'est tout à fait normal. Parce que voir des gens qui parlent en langue, qui prient en langue, des fois ça peut surprendre. Mais la Bible nous montre un certain nombre de choses. Donc d'abord, quand tu parles en langue, en fait tu pries et tu es connecté directement avec le ciel. Tu es connecté directement avec le ciel. Quand tu commences à prier en langue, ferme un peu ce qu'il y a là-dedans. Et concentre-toi sur ton esprit. Concentre-toi sur ton esprit. Sur ton cœur. Tu vois bien que la source, quand tu pries en langue, n'est pas de ta tête, mais elle est de ton cœur. C'est scripturaire, nous l'avons étudié. Mais apprends à fermer tes pensées, à calmer tes pensées. Et tu dis à tes pensées, calmez-vous maintenant. Parce que tu as besoin de te mettre dans ta chambre spirituelle.
Tu
as besoin de t'enfermer dans ta chambre spirituelle. Tu peux être au milieu d'une foule dans l'église. Tu peux être n'importe où. Tu peux être à la maison. Tu peux être au bureau. Quand tu commences à te mettre à parler, et en fait, tu te fermes à tout. Et vous savez, vous pouvez être dans une grande foule et passer un temps intime avec Dieu. Et ça, ça prouve qu'il y a déjà une petite maturité. Par contre, il y a des gens, pour prier, il faut que je sois dans l'église. C'est vrai, nous sommes bénis dans l'église, nous sommes ensemble. Nous louons Dieu, vous êtes au bénéfice des ministères, la présence de Dieu est plus forte. Tout ça, c'est vrai. Et l'église locale a son rôle. Mais ce que j'essaye d'éveiller en vous, c'est de vous dire que l'église locale a son rôle, mais l'église est constituée de vous et moi. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est vous et moi. Ce sont les pierres vivantes que vous êtes. Et plus ces pierres sont vivantes, plus nous pouvons construire un édifice qui est spirituel. Plus ces pierres sont endormies, moins nous pouvons construire quelque chose de stable et de fort. Donc sachez bien que Dieu nous a donné cette prière pour communiquer directement avec
nous.
Vous voyez bien encore une chose. Si quelqu'un n'est pas baptisé de l'esprit, il manque d'un type de prière. Je dirais même qu'il va le manquer souvent de trois types de prières.
Et
en tout cas, une c'est sûr déjà. La prière en langue. Car personne ne le comprend, il parle à Dieu, personne ne le comprend. Donc c'est clair que ce que tu vas dire, ce que tu dis en langue, eh bien directement, tu es compris par Dieu. Personne d'autre te comprend. Ni ton frère, ni ta sœur. Ni les démons, ni le diable. Ni les anges. Parce que c'est Dieu seulement. Dieu seulement. Alors si vous parlez de la prière, parlons prière. Parlons prière, mes amis. La prière en langue est d'une grande utilité. À la fin du verset, Paul dit la chose suivante. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Ah, vous vous rappelez? Dans Ephésiens 6, 18. Priez en tout temps, autant qu'on
parle.
Toutes sortes de prières. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Là, Paul dit quoi? Que celui qui prie en langue, il dit en esprit. en esprit des mystères. Donc vous voyez clairement, cette prière en langue est une prière dans l'esprit. Il dit des mystères. Littéralement, qu'est-ce que la Bible dit ici? Il dit des mystères sur lui-même. Vous savez, ici, dans le grec, c'est très clair. Dans le grec, il y a l'actif, ce qu'on appelle, c'est-à-dire quand le sujet agit. Hein, par exemple, tu dis « je parle », c'est moi qui agis. Il y a aussi ce qu'on appelle le passif, c'est-à-dire que quelqu'un fait l'action et c'est la personne qui reçoit. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la voix moyenne, c'est-à-dire par exemple, si tu dis « je me lave », qui fait l'action? C'est toi. Par contre, qui devient propre? C'est toi aussi. Donc, tu agis. Et ce que tu fais, c'est pour toi. C'est exactement ce que la Bible dit ici. Quand quelqu'un prie en langue, il dit des mystères. Il dit des mystères sur sa propre vie. Non pas sur la vie mais sur ta propre vie. Tu proclames des choses divines sur ta propre vie. Et quand tu proclames des choses divines sur ta propre vie, autour de toi, il y a un monde spirituel qui est obligé de se courber devant la volonté du Puissant pour ta propre vie. Parce que ce mot mystère, un mystère dans la Bible, c'est quoi? C'est une connaissance que Dieu a cachée et cache pour un temps. C'est-à-dire que personne ne sait ce qu'il y a là, sauf lui. Toi, tu parles ces choses que tu ne comprends pas, même si ça te frustre, tant pis pour toi. L'important, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Et nous parlons ces choses qui sont des plans de Dieu sur nos vies. Nous les parlons, et c'est là où Dieu peut mettre en place dans notre vie des choses que tu ne soupçonnes même pas. Donc faisons bien attention. Si Dieu nous demande des choses, c'est à nous d'obéir. C'est pas à nous de discuter, mais c'est à nous d'obéir et de marcher dans ces choses. Trop de gens veulent marcher, ils disent qu'ils veulent marcher dans les choses de l'esprit, mais malheureusement, ils ne comprennent pas cette étape de la prière en langue. La prière en langue fait partie du B de la vie chrétienne. Quand quelqu'un naît de nouveau, on devrait tout de suite l'amener au baptême du Saint-Esprit. Et nous essayons vraiment, El Shaddai, de le faire rapidement pour que les gens ne poussent pas tordus. Parce qu'il y a des gens, au bout de 5 ans, 10 ans, ils se posent des questions. Ils disent, mais moi, je ne suis toujours pas baptisé. C'est dommage. Qu'est-ce que Dieu a ce cadeau pour toi? À n'importe quel moment de ta vie. Mais je vais vous dire une chose aussi. Quand vous étudiez bien 1 Corinthiens 14, c'est vraiment intéressant de voir comment Paul associe dans ce chapitre l'aspect du parler en langue, de la prière en langue, reçu quand tu es baptisé du Saint-Esprit, et des dons spirituels. Mais il a l'air de dire la chose suivante. Vraiment, quand on étudie, regardez versets 1 et 2 de 1 Corinthiens 14. Il dit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc, Paul nous dit quoi ici? Il nous dit, ok, poursuivez l'amour, recherchez les dons spirituels. Littéralement, vraiment, et je crois que quand on dit ça donne bien, c'est vraiment convoiter les dons spirituels. Vraiment désirer ardemment. Ardemment. Vous savez, il y a des choses qu'on ne doit pas convoiter, c'est clair. Et la Bible est très claire là-dessus. Par exemple, l'amour de l'argent, c'est quelque chose qui est mauvais. Convoiter quelqu'un qui est du sexe opposé, c'est mauvais aussi. Convoiter une position, c'est-à-dire être prêt à tout faire, à même donner des corruptions, quoi que ce soit, pour avoir un boulot ou quoi que ce soit. Des choses perverties. La Bible est claire là-dessus. Mais là, la Bible nous dit bien. Désirer ardemment, vraiment désirer ardemment les dons spirituels. Parce que verset 2, il va dire la chose suivante. Il va dire, bon, il dit, ok, vraiment désirer ardemment les dons spirituels. Parce que en effet,
Kuko,
celui qui parle en
langue,
celui qui parle en
langue,
il parle à Dieu. Il ne parle pas aux hommes, personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. En fait, qu'est-ce que Paul est en train de dire entre le verset 1 et verset 2? Il dit, bon, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Bon, d'abord, apprenez à bien vous servir de votre
prière
en langue. Mais sachez aussi une chose, ça va être une porte, une ouverture, pour que vous soyez sensible aux choses de l'esprit. Aux choses de l'esprit. Et alors après, Paul dit, il parle de tous les dons spirituels. Il explique différentes choses. Il dit, c'est bien, tu parles en langue. Tu pries en langue, tu dis les mystères de ta propre vie. Voilà, maintenant, si tu as passé cette étape-là, tu dois avoir un désir. Un désir que les dons spirituels se manifestent dans ta vie. Ça, c'est l'étape supplémentaire. C'est aller plus loin dans ce que Dieu a pour toi, dans les choses de l'esprit. Vous savez, il y a trop de gens qui sont très réfractaires à tout ça.
Et
non, c'est réservé pour le pasteur. Non, non, c'est réservé pour certaines personnes. Il y en a certains qui ont de la chance. Dieu leur fait des dons. Non. Mes chers amis, moi je vais vous dire une chose. Je soupire de voir des instruments qui sont dans cette église et que Dieu utilisera de façon différente dans les dons spirituels.
Vous
voyez, quand j'ai vu les conseillers jeudi, vraiment, j'ai vraiment loué Dieu pour ça. D'habitude, ils viennent, ils sont là pour conseiller les gens qui s'approchent pour donner leur vie à Jésus. Là, ils ont prié pour baptiser
Saint-Esprit.
Et puis, on aura de plus en plus de gens comme ça qui vont être capables d'amener des gens au Seigneur, capables eux-mêmes d'amener des gens au baptême du Saint-Esprit, et puis après ils seront capables de les amener à la guérison divine, et après ils seront capables de les amener à toutes sortes de choses du royaume de Dieu, et gloire à Dieu, parce que c'est comme ça, quand nous sommes utiles, nous sommes des instruments, nous sommes le corps, et le corps se manifeste, et le corps ne se manifeste pas par une ou deux ou trois ou quatre personnes. Là, on ne parle pas de ministère. Parce que personne ne peut mettre quelqu'un d'autre dans le ministère. Par contre, on parle d'être un canal de la bénédiction de Dieu pour les autres. Et n'importe quel chrétien est de nouveau, quand il est formé correctement, qu'il est sensible aux choses du Saint-Esprit, peut amener d'autres au Seigneur à la maison, quand il exerce en tant que conseiller dans l'église, dans un groupe de prière. On peut prier pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit. On peut prier pour que les gens soient guéris. On peut prier pour que les gens soient libérés de démons. Tout autre chose. Faire les œuvres de Jésus. Faire les œuvres de Jésus. Et à ce moment-là aussi, les dons spirituels se manifestent. Et quand il y a vraiment des choses dans l'esprit, eh bien, des gens donnent des prophéties qui sont inspirées par le Saint-Esprit. D'autres vont donner des paroles de connaissance sur des situations passées, présentes. D'autres parfois donneront des paroles de sagesse qui sont des révélations sur l'avenir, etc., etc. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire parmi son corps. Mais, je dis encore mais, on n'entrera pas dans le bâtiment sans passer par la porte. Et une des portes, c'est la prière en langue. Il faut être bien clair là-dessus. Et cette prière en langue nous amène dans des dimensions nouvelles. Elle nous amène dans des dimensions nouvelles. Parce que la Bible nous parle d'autres types de prières. Je
ne
veux pas vous faire un enseignement là-dessus, je veux juste vous donner quelques éléments
pour vous
faire comprendre que quand vous êtes dans l'esprit, à qui c'est déjà arrivé ici d'avoir un sujet de prière, d'avoir vraiment une préoccupation importante et de dire je sais vraiment, vraiment, je ne sais pas comment
prier.
Ça vous est jamais arrivé? Bien sûr, ça nous est tous
arrivé.
On est là, on se dit comment je peux prier par rapport à cette situation? Comment je peux prier par rapport à cette situation? Ça nous est tous arrivé. Mets-toi à prier en langue. Et tu pries en langue. Et tu pries en langue. Et tu pries en langue. Et au bout d'un moment, tu vas entrer dans un autre type de prière qui s'appelle la supplication. Alors la supplication, c'est un mot en français qui est terrible, qui nous a trompés avec la religion. Regardez dans 1 Timothée 2,
1
Timothée 2, verset 1. La Bible va nous montrer quelque chose ici. On a besoin d'être dans l'esprit.
Pour
être efficace, on a besoin d'être dans
l'esprit.
On a besoin d'être dans l'esprit. Dans l'esprit. J'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois, pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Paul dit une chose qui est fondamentale
ici.
Il nous exhorte, il exhorte les chrétiens à prier pour les autorités. Ça, on en entend partout, on entend des séminaires partout, on entend partout dire, nous prions pour les autorités. Oui, mais attention. Ici, Paul parle de supplication.
Supplication.
Et quand on parle de supplication, on pense à supplier Dieu. Dieu, s'il te plaît, fais ça. Je t'en prie. Et en fait, ce mot supplication n'a rien à voir avec ce genre d'attitude. Ça n'a rien à voir avec ce genre d'attitude. En fait, le mot supplication littéralement veut dire la chose suivante. C'est une prière sincère et fervente. D'une intense ferveur. Dans lesquels il y a une demande qui vient du cœur de l'esprit. Qui vient du cœur de l'esprit. C'est ça qui est important. C'est quand vous êtes en prière, vous avez un sujet. Vous savez, des fois, on a des sujets. Et c'est plus des fois par réaction, parce qu'on est énervé. Par rapport à une situation. T'es là, il y a une situation qui te révolte. Et tu dis, je vais prier. T'as envie de dire, Seigneur, maudis-le.
Mais
tu dis, non, Seigneur, bénis-le. Vous savez, est-ce que c'est pas bon de prier sur le coup d'énervement? Parce que là, t'es dans la chair. T'es dans ton âme. Et ça ne touche pas le ciel. Donc, quand t'as un sujet qui est vraiment, qui te préoccupe, mais non pas dans ta tête, vraiment, dans ton cœur, ça travaille.
Il y a
vraiment quelque chose qui ne va pas. Je suis préoccupé par cette situation. Et je suis déterminé à voir cette situation changer. À ce moment-là, si tu pries dans la chair, tu n'auras aucun résultat. Parce que tu pries avec ton âme. Et je te rappelle que ton âme ne touche pas le domaine du Saint-Esprit, le domaine de la vie spirituelle. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu pries avec ton âme, ton intelligence, et qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. Tu ne touches pas le ciel. Par contre, quand vraiment tu es là, et tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment prier, mais j'ai vraiment ce fardeau dans mon cœur. Et tu commences à prier en langue. Et tu pries 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 en langue. Et au bout d'un moment, tu commences à entrer dans un domaine qui n'est plus le domaine du naturel.
Mais
c'est là où vraiment ton esprit commence à respirer en toi. Tu sens cette présence divine venir sur toi, te couvrir. Et tu dis, Père, comment faut que je prie pour ça? Et d'un seul coup, la voix divine commence à venir et met quelque chose dans ton cœur. Parfois, le Saint-Esprit va te dire, fais juste ça, ne prie pas spécialement pour ça. Et des fois, juste en agissant, c'est une situation se débloque. D'autres fois, le Saint-Esprit va mettre quelque chose dans ton cœur à prier d'une certaine façon. Mais non, c'est pas comme ça que je devrais prier, moi. Obéis. Un des grands secrets de la vie spirituelle, c'est l'obéissance. obéis simplement. Discute pas. Tu as ça comme ça dans ton cœur. Tu pries ça simplement. Tu pries ça simplement. Et tu vas voir le Saint-Esprit va prier ce que tu parles. Ce que tu dis. Parce que tu as une direction pour prier par rapport à cette situation. Vous voyez, ça c'est une prière aussi dans l'esprit. La prière de supplication fait partie des prières dans l'esprit. Par exemple, la prière de la foi, quand je crois que je reçois au moment où je prie, n'est pas une prière dans l'esprit. C'est une prière, la prière de la foi. Mais quand tu entres dans l'esprit, rappelez-vous la porte, c'est prier d'abord en langue. Et là, ton esprit commence à s'activer, Et au bout d'un moment, tu auras la solution sur le comment prier. Maintenant, quand tu commences à connaître ce genre de choses, parfois le Saint-Esprit t'amènera dans un autre type de prière, qui est le type de prière le plus élevé dans l'esprit, qui s'appelle la prière d'intercession. Brièvement, la prière d'intercession, c'est quoi? C'est éviter le jugement. Éviter le jugement sur quelqu'un qui est coupable et qui mérite le jugement. C'est ça l'intercession. L'intercession, c'est quelqu'un qui est sous un jugement et tu pries pour que cette personne ne soit pas jugée par Dieu. Par exemple, les inconvertis. Rappelez-vous, la colère de Dieu est sur tous les inconvertis. Il y a des inconvertis pour lesquels on prie.
Et
on dit, Père, vraiment touche par l'amour de Jésus. Puis au bout de quelques temps, ils viennent au Seigneur. Il y en a d'autres, ils sont plus réfractaires. Et parfois, le Saint-Esprit va mettre. Et ce genre de prière, la prière d'intercession, c'est pas un homme qui peut décider. Je vais intercéder. Vous savez, souvent les chrétiens disent, nous intercédons pour notre église. Et en fait, quand ils disent ça, ça veut dire qu'il y aurait un jugement sur leur église. Alors dans ce cas-là, ça serait très grave.
Hein.
Vous voyez, ça n'a aucun sens de dire ça. Non, par contre, le Saint-Esprit peut t'amener dans des moments particuliers. Tu es là en train de prier tranquillement. Et puis d'un seul coup, tu pries en langue. Et d'un seul coup, tu as un fardeau qui tombe sur toi. Mais tu as un fardeau, tu es là. Tu as une envie. Une envie de prier. Quelque chose qui te saisit. Comme si tu veux tout fermer. Et dire, là vraiment, j'ai une soif de prier. Et tu sens un fardeau. Et tu pries en langue. Et souvent, ton langage d'ailleurs va changer. Ton langage en langue va changer à ce moment-là. Et tu vas avoir ce fardeau. Et au bout d'un moment, ce fardeau va partir de ton cœur, de ton esprit. Et tu vas sentir comme si tu as remporté une victoire. Tu ne sais pas souvent ce qui s'est passé. Parfois, c'est un frère ou une sœur ou quelqu'un qui va te dire, c'est bizarre, à tel moment, il y avait tel problème. Et je sais pas, Dieu agit d'une façon complètement surnaturelle. Ce païen s'est converti d'une façon miraculeuse. On n'aurait jamais cru qu'il aurait pu venir au Seigneur. C'était quand? À quelle heure? Et la personne te dit, tel jour. Et c'est exactement le jour où toi, tu étais dans ce genre de prière d'intercession. Ça peut être ça, ça peut être aussi des chrétiens qui se sont écartés de Dieu et qui marchent sous un jugement de Dieu. La Bible nous en parle. Je
ne
peux pas vous faire un enseignement là-dessus maintenant, mais la Bible nous en parle. Dans 1 Corinthiens 5, 5 par exemple, Paul nous en parle. Ce sont des chrétiens qui sont sous des jugements et parfois ils tombent malades. Ils ont ouvert les portes au diable.
Et
je ne dis pas que tous les chrétiens qui sont malades ont ouvert les portes au diable, loin de là. Mais certains, ils sont là, ils sont tombés malades, et s'ils ne se repentent pas sincèrement, et s'il n'y a pas quelqu'un qui va intercéder pour
eux,
cette personne mourra. La Bible nous dit que son esprit sera sauvé au jour du Seigneur, mais il perdra sa récompense, parce que la Bible est claire là-dessus. La Bible nous dit clairement que nous sommes sauvés par la foi et par la grâce, que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel. Par contre, quand un chrétien s'écarte, qu'il se met serez sous un jugement, il perdra sa récompense dans le royaume futur où Dieu nous donnera au tribunal de Christ nos récompenses selon ce que nous aurons fait dans notre corps, selon ce que Dieu nous aura demandé. Amen.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.